Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Mannheim, 23 mars 1819, 11h du matin. C'est une matinée plutôt tranquille au domicile du dramaturge August von Kotzebue. Soudain, on sonne à la porte. Une domestique répond alors. Devant elle, un jeune homme, Karl Sand, demande à rencontrer M. Kotzebue. La domestique lui répond que ce dernier n'est pas disponible pour le moment et de revenir plus tard en après-midi. Le jeune homme acquiesce et s'en va. Wilhelmina Kotzebue, la femme de M. Kotzebue, recevait des amis. Soudain, on sonne de nouveau à la porte. Une domestique répond et tombe face à face avec M. Sand. Elle informe que Mme Kotzebue reçoit de la visite et elle lui demande d'attendre un instant à l'extérieur. Quelques minutes passent avant qu'il soit invité à l'intérieur, dans le salon du dramaturge. Les deux hommes se mettent à discuter de façon plutôt amicale. Tout à coup, Sand sort un poignard de sa poche et s'exclame alors « Vous me faites honte! Voilà pour vous, traître à la patrie! » avant de poignarder le dramaturge. Alors que le chaos règne dans le domicile, Sand sort sur le balcon et sort un deuxième poignard de sa poche avant de se poignarder dans le ventre. Le dramaturge August von Kotzebue meurt. Son assassin survit à ses blessures. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième épisode de Par le fer et le sang. Je suis, comme toujours, Benjamin Lacombe, et dans cet épisode, il sera question de deux périodes importantes dans le développement du nationalisme allemand, le Fort Merz et le Printemps des Peuples. Au cours de cette période, allant de 1815 à 1850, le mouvement nationaliste allemand va vivre des hauts et des bas importants. Les gouvernements de la nouvelle Confédération allemande se sentant menacés par les aspirations nationalistes, vont mettre en place, à l'instigation de l'Autriche et de la Prusse, une série de mesures répressives contre le mouvement. Cela ne l'empêchera pas toutefois de proliférer tout au long de la période jusqu'au début du Printemps des Peuples en mars 1848. En parlant de l'Autriche et de la Prusse, ces deux États vont tenter d'imposer leur influence en Allemagne, menant à la continuité de leur rivalité datant de l'époque du grand Frédéric. Bien qu'ils collaborent dans plusieurs domaines, leur rivalité va se faire sentir sur le plan militaire et économique. Quand les révolutions éclatent en 1848, l'Autriche et la Prusse sont forcées de faire des concessions afin de préserver l'ordre monarchique établi. Un premier parlement allemand est formé à Francfort et l'ordre du jour est la constitution d'un État allemand unifié. Cependant, on ne s'entend pas sur la forme que devrait prendre l'Allemagne. Toutefois, l'effondrement du projet en fin 1849 et une crise diplomatique en 1850 menacent de mettre l'Allemagne de nouveau à feu et à sang. La résolution de cette crise rétablit la Confédération ainsi que le statu quo d'avant mars 1849. Nous avons conclu le dernier épisode par la formation de la Confédération allemande lors du Congrès de Vienne en 1815. Mais qu'est-ce que c'est que cette Confédération? La Confédération allemande, c'est le successeur du Saint-Empire romain germanique. Il s'agit d'un État fédéral composé de 33 États comparativement aux près de 300 au sein du Saint-Empire romain germanique à sa dissolution en 1806. Le territoire de la Confédération comporte quelques particularités. Tout d'abord, comme le Saint-Empire, seuls les territoires allemands ou germaniques sont inclus dans la Confédération. Donc, par exemple, les territoires prussiens de Prusse-Orientale, la Prusse occidentale et le Grand Duché de Posen, ainsi que les territoires autrichiens en Italie, la Vénétie par exemple, la Dalmatie, la Galicie et la Hongrie, ne font pas partie de la juridiction de la Confédération. De plus, trois territoires de la Confédération sont gouvernés par des monarques étrangers. Ces territoires sont le Hanovre, qui est gouverné par les rois de Grande-Bretagne jusqu'en 1837, le Luxembourg par le roi des Pays-Bas et le duché de Holstein par le roi du Danemark. De grands changements territoriaux ont été effectués lors du Congrès de Vienne. Le plus important est certainement l'agrandissement de la Prusse dans le nord et l'ouest de l'Allemagne. La Prusse, occupant désormais la presque entièreté du nord de l'Allemagne, ainsi que la région de la Rhénanie et de la Westphalie dans l'ouest de l'Allemagne. Contrairement à la diète impériale qui ne siégeait pas de façon permanente ni à un endroit fixe, la diète fédérale de la Confédération, le Bundestag, siège de façon permanente à Francfort-sur-le-Main. Il ne s'agit pas d'un parlement à proprement parler, mais il s'agit plutôt d'une assemblée où se rencontrent les diplomates de chaque État fédéral et où ils discutent et votent sur différents enjeux au sein de la Confédération. Le président de la Diète est l'empereur d'Autriche. Mais malgré la création d'une Diète permanente, il n'y a pas vraiment d'autres institutions fédérales centralisées. Il existe une armée fédérale et chaque État doit y fournir un certain nombre de troupes, mais cette armée dépend très largement des armées autrichiennes et prussiennes, les deux plus importantes forces militaires en Europe centrale. La Confédération était censée jeter les bases d'une certaine coordination politique au niveau fédéral, tout en laissant un assez bon degré d'autonomie aux États fédéraux. On voyait des possibilités d'harmonisation constitutionnelle au sein des États, surtout après l'adoption d'une constitution fédérale en 1815, l'adoption de politiques communes en matière de défense et d'accords économiques et commerciaux. Toutefois, à la fin des années 1810, rien n'avait été fait. Sur le plan économique, il faut attendre 1834 pour la formation d'une union douanière, le Zollverein, au sein de la Confédération, sous le contrôle de la Prusse. L'Autriche et la Bavière vont tenter de former leur propre union douanière, mais sans succès. Et bien que le Zollverein opère au sein de la Confédération, il ne s'agit pas d'une institution fédérale à proprement parler. En continuant dans ce sens, on aurait pu espérer que l'idée d'unification politique et nationale de l'Allemagne sera un objectif de la Confédération. C'est pas du tout le cas. Trois objectifs principaux ressortent. Le premier était de servir de tampon contre la Russie. Le deuxième, selon l'historien américain Dennis Showalter, était, je cite, « de servir de contrepoids et d'aimant pour une Prusse trop puissante pour être relégué à un statut de puissance régionale. » Et le troisième était de servir de cadre pour limiter et prévenir tout changement radical interne ainsi que toute interférence par des puissances externes. La Confédération sera également l'arène dans laquelle se jouera la rivalité entre l'Autriche et la Prusse pour l'imposition de leur influence en Allemagne, et particulièrement sur ce qui était appelé les « Mittelstaaten » ou les États moyens. Ces États incluent la Bavière, le Hanovre, la Saxe et le Württemberg. La Prusse et l'Autriche ont même leur propre sphère d'influence au sein de l'Allemagne. La sphère d'influence autrichienne se situe dans le sud de l'Allemagne, majoritairement catholique, et la sphère prussienne dans le nord, majoritairement protestant. Les États du Sud se tournaient principalement vers l'Autriche, non seulement parce qu'ils partageaient la même foi, le catholicisme, mais aussi parce que plusieurs voyaient la Prusse d'un mauvais œil, surtout à cause de la crise saxonne de 1815, durant laquelle la Prusse, et dans le cadre des négociations du Congrès de Vienne, souhaitait prendre possession de l'entièreté de la Saxe. L'Autriche et la Prusse ont même failli entrer en guerre à cause de ça, mais la diplomatie va finir par triompher. la Prusse va obtenir la partie nord de la Saxe, dont la forteresse importante de Torgau. Cette crise laissa un goût assez amer aux petits États allemands et créa donc cette crainte de leur part de que ces États seraient absorbés par la Prusse. Mais bien évidemment, l'Autriche exerçait quand même une assez forte influence sur eux et était un peu aussi contrôlante avec eux. Mais on la préférait de loin à la Prusse parce qu'elle leur laissait une assez bonne illusion d'autonomie et l'Autriche ne souhaitait pas non plus les conquérir. Comme mentionné plus haut, l'un des objectifs de la Confédération était de fournir un cadre pour limiter et prévenir tout changement radical à l'interne, ainsi que toute interférence étrangère. À l'international, la plus grande menace pour l'Allemagne, c'est la France. Malgré la chute de l'Empire napoléonien et la restauration des Bourbons en France, les États allemands craignent encore la France. Cette crainte est d'ailleurs l'un des points sur lesquels l'Autriche et la Prusse, ainsi que les États moyens, s'entendaient et collaboraient. Mais que sont ces changements radicaux que l'on tente de prévenir? En fait, quand on parle de radicaux en sens général, on parle ici du mouvement nationaliste. Le mouvement nationaliste après 1815 se développe et se propage rapidement au sein des milieux intellectuels et étudiants. En effet, on voit apparaître dans les universités allemandes des fraternités étudiantes nationalistes, les Burschenschaften. On voit également, grâce au gymnaste prussien Friedrich Ludwig Jahn, la formation de clubs de gymnastique qui servaient également de clubs de rencontres nationalistes. Alors, pourquoi les autorités au sein de la Confédération voyaient-elles d'un mauvais œil le mouvement nationaliste? Premièrement, le mouvement nationaliste n'était pas un grand fan de la Confédération. Pendant le Congrès de Vienne, on souhaitait déjà la formation d'un État-nation allemand basé sur des valeurs libérales, démocratiques et sur la représentation et la souveraineté populaire. Tous des événements opposés à l'absolutisme d'avant 1805, et cet absolutisme est malheureusement encore présent au sein de la Confédération. On se doute donc que les nationalistes allemands vont commencer à gronder. Entre 1815 et 1819, ils organisent des grands rassemblements où l'on fait des discours nationalistes et où l'on condamne l'ordre établi. L'un des premiers festivals du genre se déroule le 18 octobre 1817 au château de Wartburg, là où Martin Luther s'était réfugié durant la réforme protestante. Ces rassemblements, ainsi que les aspirations nationalistes et libérales du mouvement, créent beaucoup de méfiance chez les autorités, particulièrement chez le ministre des Affaires étrangères autrichien, Clemens von Metternich. L'architecte du Congrès de Vienne, Metternich est un ardent conservateur et, comme les autres conservateurs allemands, il préférait le maintien de l'ordre social et politique d'ancien régime. Le mouvement nationaliste menaçait cet ordre et il fallait trouver un moyen de le faire taire. Le festival de Wartburg ainsi que l'assassinat d'August von Kotzebue en 1819 vont servir de prétexte aux forces conservatrices et à Metternich de réprimer le mouvement. Le résultat, les décrets de Karlsbad de 1819. Adoptés avec le soutien de la Prusse, les décrets interdisent les fraternités étudiantes nationalistes et les professeurs nationalistes au sein des universités allemandes sont limogés. De plus, on instaure des mesures sévères de censure de la presse. Le mouvement nationaliste est poussé « underground », mais cela ne l'empêche pas de continuer à opérer. En juillet 1830, une révolution éclate en France. L'onde de choc se répand jusqu'en Allemagne, où des bouleversements politiques éclatent dans le Hanovre, dans le Brunswick et en Saxe. Les gouvernements de ces trois États décident de faire des concessions constitutionnelles pour tenter de calmer l'agitation. deux ans plus tard, en 1832, un grand rassemblement nationaliste est organisé au château d'Ambach, dans le Palatinat bavarois. Entre 20 000 et 30 000 personnes sont présentes et une longue procession défile jusqu'au château. Parmi la foule, on retrouve un drapeau tricolore portant les couleurs du Oberburschenschaft, l'association étudiante nationaliste de Jena, et du corps franc de Lützow pendant les guerres napoléoniennes. Le noir, le rouge et l'or, les couleurs du drapeau allemand actuel. À la suite du festival de Hambach et d'un incident où des manifestants ont saisi un poste de police à Francfort, Metternich, avec le soutien de la Prusse, fait adopter de nouvelles mesures répressives contre le mouvement nationaliste. Dans une circulaire rédigée en collaboration avec le ministre prussien des Affaires étrangères, Frédéric Ancillon, Metternich déclare, et je cite, les dangers qui menacent les différents États allemands ainsi que la Confédération dans son ensemble sont indéniables. Il faut faire face à ces dangers. Toutefois, au fil du temps, les mesures répressives vont devenir de moins en moins efficaces, car les différents groupements nationalistes en Allemagne vont commencer à tisser des liens de plus en plus étroits entre eux et vont même commencer à tisser des liens avec des expatriés allemands en dehors de l'Allemagne. De plus en plus de politiciens allemands voient dans les réformes un moyen beaucoup plus efficace pour prévenir et contrer l'opposition. Les années 1840 débutent avec une grave crise diplomatique entre la Confédération allemande et la France. En 1840, le premier ministre français Adolphe Thiers, à la suite de la défaite française en Égypte et de son exclusion des négociations en lien avec ce conflit, demande des compensations territoriales. Et il demande particulièrement la restauration de l'ancienne frontière napoléonienne du Rhin, ainsi que l'annexion de la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire la rive se trouvant en Allemagne. Ces demandes causent un tollé énorme partout en Allemagne, où l'on craint le retour de politiques expansionnistes françaises. La crise prend fin avec le renvoi de M. Thiers et le retrait des demandes territoriales par son remplaçant, l'ex-maréchal d'Empire Soult. En Allemagne, la crise alimenta non seulement le mouvement nationaliste lui-même, mais aussi le nationalisme chez la population. Durant la crise, le poète Max Schneckenburger écrit un poème qui deviendra un hymne nationaliste chanté par la population entière. Die Wacht am Rhein, la garde sur le Rhin. En 1841, l'ancien professeur August Hoffmann von Fallersleben séjourne sur l'île d'Heligoland au large du Schleswig-Holstein. Un nationaliste exilé de sa Prusse natale, la crise du Rhin de l'année précédente l'inspire à écrire un poème nationaliste. Sur une mélodie de Joseph Haydn, le poème de Fallersleben deviendra un hit instantané au sein du mouvement nationaliste et sera de ce fait interdit par les autorités. La première strophe du chant des Allemands de Fallersleben est, de nos jours, teintée par son association et son utilisation par le régime nazi. Cependant, à l'époque où le texte a été écrit, la première strophe a une connotation complètement différente. Dans le contexte des années 1840, Deutschland über alles, ou l'Allemagne au-dessus de tout, ne faisait pas la promotion de la supériorité de l'Allemagne sur toutes les autres nations. Ce que Fallersleben voulait dire par là, c'est qu'il fallait que l'on mette de côté les querelles au sein de l'Allemagne et de se concentrer sur l'unification de l'Allemagne avant toute autre chose. Aujourd'hui, c'est la troisième strophe qui est chantée. Einigkeit, Recht und Freiheit. Unité, droit et liberté. Ce sont les trois piliers du mouvement nationaliste allemand. L'unité de la nation allemande, l'égalité de tous les Allemands devant la loi et la liberté du peuple allemand. L'Allemagne décrite dans ce chant demeure toutefois indéfinie. Si l'on souhaite l'unification de l'Allemagne, on ignore encore quelle forme cette Allemagne prendra. Cette question demeure en suspens jusqu'en 1848. Les décennies qui ont suivi la défaite de Napoléon et la formation de la Confédération allemande sont marquées par un retour de l'absolutisme monarchique. En effet, si dans les États qui avaient été sous l'emprise de Napoléon, on adopte des politiques un peu plus libérales ou du moins plus ouvertes au compromis, en Prusse et en Autriche, l'attitude est complètement différente. En Prusse, dès le début des réformes prussiennes en 1808, le roi Frédéric Guillaume III promet l'adoption d'une constitution pour le royaume, reprenant alors le flambeau de son oncle, Frédéric le Grand, qui avait déjà commencé l'ébauche d'une constitution avant son décès en 1786, ce qui aurait transformé la Prusse en une monarchie constitutionnelle et aurait permis la création d'une assemblée nationale. Toutefois, à la suite de la mort soudaine de sa femme, la reine Louise, qui avait été importante pour le début des réformes, le roi se retrouve seul durant une période critique de son règne. Une clique conservatrice se forme alors autour du roi et elle va exercer une grande influence sur lui, surtout après la fin des guerres napoléoniennes. Ainsi, une constitution ne sera jamais introduite durant le règne de Frédéric Guillaume III et seules des assemblées provinciales seront introduites dans les provinces du royaume, où seuls les membres de la noblesse et de l'aristocratie étaient représentés. De plus, le roi est un fervent partisan des décrets de Karlsbad et de nombreuses personnalités du mouvement réformiste prussien et du mouvement nationaliste en Prusse, comme Wilhelm von Humboldt, celui qui a apporté une importante réforme du système d'éducation, le professeur Ernst Moritz Arndt, l'un des plus importants poètes nationalistes des guerres de la Libération, ou bien le général Hermann von Boehen, sont limogés. Ce virage conservateur déplaît énormément la bourgeoisie, la classe qui réclamait le plus de réformes politiques et qui soutenait le plus les idées du mouvement nationaliste. Il déplaît également la population de la Rhénanie et de la Westphalie, région intégrée à la Prusse en vertu du Congrès de Vienne. La région avait été constituée en un royaume par Napoléon, le royaume de Westphalie, et fonctionnait encore sous le code Napoléon, même après la chute du régime napoléonien. Ce fait causa de nombreuses tensions entre le gouvernement prussien et le gouvernement local. Pendant la Révolution de juillet 1830 en France, des manifestations éclatent à Cologne et ailleurs en Rhénanie, mettant en évidence les tensions politiques qui existaient. De plus, des tensions religieuses existaient entre la Rhénanie catholique et la Prusse protestante. Bref, sur le plan politique, la Prusse est capable de maintenir l'ordre, mais les tensions commencent à bouillir de plus en plus sous la surface. Il existait également un conflit entre une forme de patriotisme ou de nationalisme prussien et le nationalisme allemand. Ce patriotisme prussien est né durant le règne de Frédéric le Grand et prend beaucoup d'ampleur après la victoire prussienne lors de la guerre de Sept Ans et les réformes frédéricaines. D'abord essentiellement littéraire, ce patriotisme ne s'était jamais réellement limité à un simple désir de défendre la patrie. Il se mêlait également à des aspirations politiques. Ce fut le cas de façon plus substantielle pendant les guerres napoléoniennes, car le public qui était susceptible d'éprouver un enthousiasme patriotique, c'est-à-dire la petite classe bourgeoise cultivée, était beaucoup plus large qu'à l'époque de Frédéric le Grand, et le contexte rhétorique de l'époque s'était également radicalisé. Cela créa un problème. Ce patriotisme pouvait non seulement adopter un certain radicalisme politique, mais pire encore, il pouvait se transformer en un engagement nationaliste qui pourrait menacer la légitimité des dynasties allemandes. Des tensions existantes, les patriotes prussiens, comme Karl von Hardenberg ou le général Ludwig Georg von Wartenburg, et les nationalistes allemands, comme Johann Gottfried Fichte, le général Hermann von Boyen, le général Karl von Grollmann et même le baron Karl von Stein. Pour l'historien australien Sir Christopher Clark, spécialiste de l'histoire prussienne, la tension entre le patriotisme prussien et le nationalisme allemand comportait deux aspects, une menace et une promesse. La menace représentait l'agitation nationaliste qui menaçait l'autorité des maisons régnantes dans les États allemands et de remplacer le système en place par un nouveau système proche des idéaux de la Révolution française. La promesse, et je cite ici M. Clark, « La Prusse pouvait trouver le moyen de concilier la ferveur nationale avec ses propres intérêts, de se laisser porter par la vague du nationalisme sans renoncer à son identité ni à ses institutions propres. » Toutefois, comme nous l'avons vu plus tôt avec le soutien prussien au décret de Karlsbad, c'est la menace qui l'emporte. L'armée prussienne sort des guerres napoléoniennes complètement changée par les réformes militaires lancées après la défaite de 1807. L'un des changements les plus importants apportés par les réformes est l'introduction d'un service militaire obligatoire pour tous les citoyens mâles du royaume. Avec la loi de 1814 sur le service militaire, la durée du service est fixée. La recrue, appelée sous les drapeaux à l'âge de 20 ans, passe 3 ans dans l'armée permanente, puis 2 ans dans la réserve. Par la suite, il passe dans l'armée territoriale, la Landwehr, formée en 1813, jusqu'à l'âge de 30 ans. Une clause est également ajoutée pour les membres de la bourgeoisie, leur permettant de servir 1 an plutôt que 3 dans l'armée permanente en tant que Einjährig Freiwilligen, ou volontaire d'un an, et leur permettant également d'obtenir une commission d'officier dans la Landwehr. Puisque plusieurs fils de la bourgeoisie vont emprunter ce chemin, ils formeront la majeure partie du corps des officiers de la Landwehr, les fils de la noblesse et de l'aristocratie se retrouvant alors au sein de l'armée permanente. L'héritage le plus important des réformes militaires prussiennes, toutefois, est l'établissement du grand état-major général, ou Großer Generalstab. Il existait une organisation similaire à l'époque de Frédéric le Grand et qui a été remaniée un peu en 1800. Mais après la défaite de 1807, le général von Scharnhorst réorganise complètement l'organisation. Un état-major militaire, c'est un peu le cerveau d'une armée. C'est là où les décisions sont prises et sont ensuite acheminées vers les échelons plus bas de l'organisation militaire. L'état-major général prussien met l'accent sur plusieurs domaines. En effet, il produisait des cartes militaires, il produisait des ouvrages d'histoire militaire, souvent des ouvrages que l'on appelle des histoires officielles, et publiait des journaux militaires. Il formait ses officiers à l'École générale de guerre, la future Kriegsakademie, à Berlin, par le biais d'exercices d'état-major sur le terrain et par l'entremise d'outils pédagogiques tels que le Kriegsspiel, une sorte de jeu de guerre sur table. Il se chargeait également de l'éducation des officiers pour l'ensemble de l'armée. Il recueillait des informations sur les pays et les armées étrangères et il préparait des plans de guerre, même en temps de paix. Il inculquait également chez ses officiers une technique de commandement unique appelée Auftragstaktik, Mission Type Tactics ou Mission Command, commandement de mission. Il s'agit essentiellement de laisser l'initiative et la façon dont l'objectif sera accompli aux mains de l'officier à qui l'on a donné la tâche. Tant que l'objectif est accompli, on ne se soucie pas de la façon dont il a été accompli. Selon l'historien Dennis Showalter, l'importance donnée à l'éducation des officiers prussiens a permis de créer une génération d'officiers très professionnels et avait également inculqué à l'armée, je cite, une compréhension et un respect de la planification bureaucratique et des processus décisionnels rationnels. Toujours selon M. Showalter, je cite, les exercices d'état-major, les manœuvres et les jeux de guerre ont fourni une structure de réflexion complète à une armée dont l'expérience pratique restait sensiblement limitée par rapport à celle des autres grandes puissances. Toutefois, des problèmes persistent. En effet, la Prusse sort des guerres napoléoniennes incroyablement endettée et l'armée prussienne est, dans son ensemble, affectée par des coupures budgétaires. Les fonds dédiés à la Landwehr sont de plus en plus détournés vers l'armée permanente, ce qui résulte en un manque criant d'équipement et une réduction, voire à des coupures complètes, des périodes d'entraînement, déjà peu nombreuses. De plus, de moins en moins de jeunes bourgeois sont attirés par une carrière d'officier dans la Landwehr. Ceux-ci sont souvent dénigrés par leurs collègues de l'armée permanente à cause de leur statut social, et la Landwehr ne leur offre pas l'émancipation sociale qu'ils souhaitaient. Pour l'armée permanente, qui est pourtant privilégiée dans le budget militaire malgré les coupures budgétaires, il devient de moins en moins possible de financer une durée de service complète sans avoir à couper ailleurs, soit dans l'achat d'armes, d'équipements, l'approvisionnement en nourriture, les baraques, etc. Ainsi, non seulement n'était-il pas rare de couper la durée du service actif en libérant des hommes plus tôt que prévu, mais de plus en plus de jeunes conscrits se voient transférés administrativement dans la Landwehr où ils recevaient peu ou simplement pas d'entraînement. Les avancées technologiques amenées par la révolution industrielle vont grandement profiter à la Prusse. Grâce aux grandes industries naissantes dans la vallée de la Ruhr en Rhénanie, on commence à développer un système ferroviaire important dans l'ouest de la Prusse. L'état-major prussien étudia les avantages que pouvait conférer ce nouveau moyen de transport. Toutefois, les premiers trains en service ne sont pas encore assez puissants pour leur utilisation militaire et il n'y a pas encore assez de lignes de chemin de fer pour pouvoir déplacer un grand nombre de troupes. Malgré ces lacunes, l'état-major garde un œil sur l'évolution des technologies ferroviaires. À partir des années 1840, l'utilisation militaire des chemins de fer devient de plus en plus importante. Cependant, leur utilisation se fait dans une grande improvisation. Les troupes étaient embarquées dans des trains qui circulaient selon l'horaire civil régulier, et l'on n'avait pas encore établi de protocoles spéciaux quant à l'utilisation par l'armée des chemins de fer. Bref, il reste beaucoup de pain sur la planche sur ce front. Une autre invention commencera à être adoptée par l'armée prussienne. Au début des années 1840, l'armée prussienne commande environ 60 000 fusils à aiguille Dreyse. Ce fusil à rechargement par la culasse, développé par Johann Nikolaus von Dreyse, présente plusieurs avantages. Une portée plus élevée et une cadence de tir accrue, on passe de 2 coups par minute avec les fusils modèle Potsdam qui équipaient l'armée prussienne à l'époque, à environ 5 ou 7 coups par minute, ce qui augmente la puissance de feu de l'infanterie. Pour des raisons logistiques et doctrinaires, les nouveaux fusils mettront beaucoup de temps avant d'être entre les mains des fantassins prussiens. L'une des raisons est que, pour garder le secret de cette nouvelle arme, on décide de ne pas construire une nouvelle usine pour pouvoir augmenter rapidement la production des nouveaux fusils. En fait, il va falloir même attendre jusqu'en 1859 pour que l'armée prussienne dans son ensemble soit équipée des nouveaux fusils. Pour l'instant, la majorité des soldats prussiens seront encore équipés de vieux mousquets modèle Potsdam qui ont été retravaillés pour devenir des fusils à percussion. En juin 1840, Frédéric Guillaume III meurt et son fils, Frédéric Guillaume IV, monte sur le trône. La politique de Frédéric Guillaume IV, au début de son règne, semblait être beaucoup plus libérale que son prédécesseur. En septembre 1840, il annonce son intention de poursuivre la création d'une Assemblée nationale. Il fait libérer des prisonniers politiques, il assouplit la censure de la presse, il fait réhabiliter de nombreuses personnalités ayant été victimes de la répression des décrets de Karlsbad, dont le général Hermann von Boyen. Malheureusement, la lune de miel prend fin rapidement et il abandonne le projet de parlement prussien. Ce revers est accueilli avec beaucoup de déception et d'amertume. La contestation devient de plus en plus vive dans les cercles libéraux prussiens. On assiste à la fondation de clubs libéraux dans les grandes villes prussiennes, des appels de réformes sont lancés au sein des assemblées provinciales, on assiste même à un rapprochement entre certains nationalistes polonais et les libéraux prussiens. Pendant que les libéraux prussiens s'organisaient, les conservateurs, incluant ceux au sein du gouvernement, sont divisés, faisant en sorte qu'ils ne pouvaient pas réagir de façon cohérente aux libéraux. L'adjudant du roi, le général Leopold von Gerlach, s'inquiète. Il tente de trouver des solutions, mais les chances de réussite sont minimes. Il conclut ainsi, je cite, « Que pourraient bien accomplir ces petites manœuvres contre un Zeitgeist toujours tendu vers l'avant qui, avec une habileté diabolique, mène une guerre incessante et systématique contre l'autorité établie par Dieu? » En février 1848, une révolution éclate en France, menant au renversement de la monarchie. La frénésie révolutionnaire se propage alors dans le reste de l'Europe. Au sein de la Confédération, l'Autriche est la première atteinte, le 13 mars 1848. La défaite du gouvernement autrichien face aux révolutionnaires à Vienne fait craindre le pire à Berlin. Les troubles révolutionnaires en Prusse commencent dans ses provinces rhénanes et westphaliennes. Frédéric Guillaume IV n'agit pas immédiatement, comme l'auraient souhaité plusieurs membres du gouvernement. La cour est divisée entre ceux qui souhaitaient défier et écraser l'opposition par la force et ceux qui étaient prêts à faire des compromis. Le roi, quant à lui, décide simplement de ne pas agir pour le moment. Pendant tout le mois de mars, la population de Berlin se rassemblait pour entendre des discours, lire les journaux et signer des pétitions adressées au roi demandant des réformes. le 17 mars, le roi approuve certaines des demandes de la population. La formation d'une assemblée nationale, la création d'une constitution, des propositions pour réformer la Confédération et la promulgation de la liberté de la presse. Le lendemain, le 18 mars, alors qu'une foule s'était rassemblée près du palais royal pour acclamer le roi, les troupes du général Karl von Prittwitz ouvrent le feu. La population, se sentant trahie par le roi, se révolte et des barricades sont rapidement érigées un peu partout dans la capitale. L'armée prussienne est appelée pour réprimer les révolutionnaires. Après de longs et sanglants combats de rue qui vont perdurer jusque dans la nuit du 18 au 19 mars, le roi émet la fameuse proclamation à mes chers Berlinois, an meine lieben Berliner, dans la matinée du 19 mars, dans laquelle il demande aux citoyens de déposer leurs armes et de démanteler les barricades, en échange de quoi il retirerait les troupes de la ville. Il fait retirer les troupes de la ville dans l'après-midi. Le bilan est lourd. Autour de 300 morts chez les insurgés et une centaine de morts chez les militaires. Rapidement, le roi se range du côté des révolutionnaires et annonce la tenue d'élections pour former la nouvelle Assemblée nationale prussienne. Le 21 mars, il proclame dans un discours son soutien à la cause nationale et, en portant une écharpe noire, rouge et or et suivie d'un drapeau tricolore, le roi se promène dans sa capitale à travers les acclamations des Berlinois. Le tricolore allemand est par la suite hissé sur le palais royal. Ailleurs en Prusse, particulièrement en Rhénanie et en Westphalie, la situation reste volatile. Dans les autres États allemands, on réussit à rétablir l'ordre et l'on promet également des réformes. À Francfort, du 30 mars au 7 avril, on établit un premier parlement dans l'église Saint-Paul, le Fort Parlament, ou le pré-parlement, le temps d'organiser des élections. 585 députés de partout en Allemagne sont élus et commencent à siéger le 18 mai au sein du nouveau parlement de Francfort, lui aussi situé dans l'église Saint-Paul. Trois grandes questions vont animer les débats du parlement. L'écriture d'une constitution, la forme que prendrait un nouvel État allemand et la question des duchés de Schleswig et de Holstein. Le 24 mai 1848, un comité spécial est formé pour travailler sur l'élaboration de la constitution. Du 3 juillet au 12 octobre, on discute d'un projet de loi devant octroyer une multitude de droits au peuple. Adopté le 28 décembre 1848, la loi concernant les droits fondamentaux du peuple allemand comprend, entre autres, la liberté de culte, la liberté de la presse, l'abolition des privilèges et du féodalisme et l'égalité de tous les Allemands. Un autre aspect important dans l'élaboration de la Constitution est la forme que prendrait le nouvel État allemand. Deux solutions à ce dilemme étaient proposées. Une solution « Petite Allemagne » et une solution « Grande Allemagne ». La première propose une Allemagne sans l'Autriche qui serait dominée par la Prusse, alors que la deuxième propose l'intégration complète de l'Empire d'Autriche au nouvel État. Cette dernière solution présente, toutefois, le problème des peuples non germaniques et du trop grand pouvoir que l'Autriche aurait au sein du nouvel État. Les supportants de cette solution proposent une solution intermédiaire, où seuls les territoires germaniques de l'Empire seraient intégrés à l'Allemagne et l'Autriche régnerait sur ses autres territoires non germaniques par des unions personnelles. Le 27 octobre 1848, c'est la solution Grande Allemagne qui est choisie, mais à condition que seuls les territoires germaniques de l'Empire autrichien soient intégrés. L'empereur Ferdinand, ne souhaitant aucunement dissoudre son empire, ordonne à son premier ministre, Félix zu Schwarzenberg, de déclarer au Parlement que l'Autriche est indivisible. On décide alors d'adopter la solution de la petite Allemagne face à l'intransigeance autrichienne. Toutefois, on laisse tout de même une porte ouverte à l'intégration de l'Autriche au sein du nouvel État. « La question la plus épineuse, toutefois, est en lien avec les duchés de Schleswig et de Holstein. En effet, depuis le traité de Ribe en 1460, les deux duchés étaient en union personnelle avec la couronne danoise. Le Holstein, ayant une population majoritairement allemande, faisait partie de la Confédération allemande. Dans le Schleswig, cependant, il y avait une importante minorité germanophone dans le sud. La montée des nationalismes dans la première moitié du 19e siècle exacerbait les tensions qui existaient entre les Allemands des duchés et les Danois. Les Allemands des duchés vont décider de se rebeller et, à la demande de la Confédération, l'armée prussienne va intervenir. Rapidement, toutefois, la Grande-Bretagne, la France et la Russie font pression sur le Danemark et la Prusse pour cesser les hostilités, culminant la signature de l'armistice de Malmö le 26 août 1848. Toutefois, le Parlement de Francfort rejette l'armistice à 233 voix contre 221 le 5 septembre. Un autre vote est fait le 16 septembre qui accepte finalement le traité. Cependant, l'armistice est perçu comme une honte pour plusieurs nationalistes et pour la population. À la suite du vote, une révolte populaire éclate à Francfort et le Parlement doit demander des renforts de la forteresse fédérale de Mayence pour établir l'ordre. Ces événements entraînent d'importantes divisions qui vont contribuer à la chute du Parlement. Toutefois, malgré la signature du traité de Malmö et le retrait de ses troupes, la Prusse va quand même continuer à soutenir les rebelles allemands dans les duchés. En Prusse, des tensions entre la nouvelle Assemblée nationale et le gouvernement font surface. Majoritairement libérale, l'Assemblée voyait d'un mauvais œil l'indépendance de l'armée vis-à-vis du pouvoir civil. De ce fait, l'Assemblée va œuvrer pour limiter cette indépendance. En août 1848, elle demande à tous les officiers qui ne supportaient pas le nouveau système légal constitutionnel de démissionner. Cette demande va faire basculer Frédéric-Guillaume IV dans le camp conservateur. Le gouvernement démissionne et le général Ernst von Pfuel est nommé ministre-président le 21 septembre. Un conservateur ouvert aux idées libérales, il a du mal à réconcilier un roi récalcitrant et une assemblée tumultueuse, et il démissionne le 1er novembre. Le successeur de Pfuel, le comte Friedrich Wilhelm von Brandenburg, se rend à l'Assemblée le 2 novembre en compagnie du nouveau ministre de l'Intérieur, Otto Theodor von Manteuffel, pour ajourner l'Assemblée et déclarer sa relocalisation dans la petite ville de Brandebourg sur la Havel. Quelques jours plus tard, le 10 novembre, le général Friedrich von Wrangel entre dans Berlin avec 13 000 hommes et les quelques députés restants dans l'Assemblée sont dispersés. Dans les jours qui suivent, la loi martiale est déclarée à Berlin ainsi que l'état de siège dans le reste du royaume et la répression s'enclenche. Frédéric-Guillaume IV prorogue l'Assemblée nationale le 5 décembre et promulgue une constitution beaucoup plus conservatrice. Ailleurs en Allemagne, le vent tourne en faveur des conservateurs. Le 4 avril, la délégation autrichienne quitte le Parlement. Le 14 avril, la plupart des États allemands avaient soutenu la Constitution de Francfort, officiellement adoptée par le Parlement le 27 mars, mais le Hanovre, la Saxe et la Bavière attendaient de voir la décision de la Prusse. Dans cette version finale, la Constitution prévoyait la création d'un État fédéral sous une monarchie constitutionnelle parlementaire. Le 21 avril 1849, Frédéric-Guillaume IV, qui avait été désigné auparavant comme le candidat pour le trône allemand par le Parlement, rejette la couronne et qu'il l'accepterait seulement avec l'accord des autres monarques. Il rejette par le fait même la Constitution de Francfort. Cependant, son conseiller, Josef Maria von Radowitz, propose une version amendée de la Constitution de Francfort. Le nouvel État serait une fédération volontaire avec un parlement élu, mais dont le monarque, le roi de Prusse, aurait un droit de veto absolu. L'État serait fédéré avec l'Autriche sous un directoire composé de 4 individus, 2 Prussiens et 2 Autrichiens. S'agissant d'un compromis entre les solutions de la Petite et de la Grande Allemagne, Radowitz réussit à réunir le soutien de 28 États. Cependant, les États du Sud et l'Autriche étaient réticents, non seulement par crainte de l'hégémonie prussienne, mais également à cause de l'hostilité grandissante des autres États européens au projet d'unification allemand. Le Parlement de Francfort, réduit à une centaine de députés, fut à Stuttgart, où, le 18 juin, un détachement de l'armée wurtembourgeoise dissout le Parlement. C'est la fin de la Révolution allemande. Vers la fin de l'année 1849, Radowitz avait réussi à négocier la création d'une nouvelle diète fédérale qui avait pour but d'élaborer un accord constitutionnel avec une douzaine d'États sur la base d'une petite Allemagne. Voulant éviter à tout prix la réussite des plans prussiens, le ministre-président autrichien Félix zu Schwarzenberg tente de faire appel à Frédéric Guillaume IV tout en jouant sur la peur des petits États vis-à-vis de la Prusse, en les mettant en garde contre le risque d'être avalés tout cru par cette dernière. Schwarzenberg tente également de persuader la Russie de la menace que pose l'initiative prussienne au statu quo européen. Finalement, il commença à préparer ouvertement et à grande échelle une intervention militaire contre la Prusse. Schwarzenberg procède de deux façons. Il continue d'avertir la Prusse qu'elle cherche la guerre et elle invite les États allemands à envoyer des délégués à Francfort pour envisager le rétablissement de la diète fédérale de la Confédération. 10 répondent à l'appel, dont la Bavière, le Hanovre, le Grand-Duché de Hesse, la Saxe et le Württemberg. La Prusse, voyant son initiative être torpillée, prétend supporter l'initiative autrichienne. Mais à partir du mois de mai, l'armée prussienne rappelle ses réserves, met ses forteresses sur le pied de guerre et commence à concentrer ses forces au sud. Beaucoup de troupes sont déplacées par train, mais puisqu'il n'y avait pas encore de procédure pour l'utilisation militaire des chemins de fer, un certain chaos règne et une désorganisation des troupes a lieu. De plus, puisque l'armée prussienne avait été déployée un peu partout en Allemagne pour aider à réprimer des soulèvements et aussi à participer à la guerre contre le Danemark, des dizaines et des dizaines de bataillons étaient éparpillés un peu partout sur le territoire allemand, et le ministre de la guerre prussien tentait désespérément de démêler et de rétablir ses ordres de bataille tout en affrontant une nouvelle crise, potentiellement bien plus grave. Alors que les Prussiens et les Autrichiens, appuyés par la Bavière et le Württemberg, déployaient leurs troupes, l'électeur de Hesse demanda le soutien de la Confédération pour rétablir l'ordre sur son territoire. Il s'agit du catalyseur de la crise. En effet, des routes qui reliaient la Rhénanie et la Prusse passaient par le duché de Hesse et la Prusse voulait éviter que les troupes fédérales et surtout les troupes autrichiennes en prennent possession. Frédéric Guillaume IV voulait éviter une guerre, surtout après que la Russie ait déclaré son soutien à l'Autriche. Le 2 novembre, avec la promesse solennelle de seulement sécuriser ses routes commerciales, les troupes prussiennes pénètrent en Hesse. Mais malgré les promesses prussiennes, l'Autriche réplique. Et le 8 novembre, une escarmouche éclate entre les troupes prussiennes et bavaroises à Brunssel, non loin de la ville de Fulda. 8 soldats bavarois sont blessés et un cheval prussien est tué. Au bout de 3 semaines de tension immense, le 23 novembre, Schwarzenberg donne 2 jours à la Prusse d'accepter la présence de troupes fédérales en Hesse. Frédéric Guillaume IV, souhaitant éviter la guerre, accepte. Et le 1er décembre, la Prusse accepte les termes du traité d'Olmütz, La Prusse doit accepter la présence des troupes fédérales en Hesse. Elle doit cesser de soutenir les rebelles dans le Schleswig-Holstein, mettant rapidement fin à la première guerre du Schleswig, et que l'organisation politique de l'Allemagne sera adressée au cours d'une conférence à Dresde plus tard. Les événements du Parlement de Francfort jusqu'à la Convention d'Olmütz en 1850 ont démontré aux petits et moyens États de la Confédération que la rivalité austro-prussienne et l'occasionnelle coopération entre les deux pouvaient représenter une menace à leurs intérêts. Selon Dennis Showalter, ce que le cas d'Olmütz démontre surtout, c'est que tout changement important à l'organisation de l'Allemagne ne pouvait être implanté sans qu'une guerre éclate entre l'Autriche et la Prusse. Si une telle guerre venait à éclater, les petits et moyens États craignaient non seulement de devoir choisir entre l'une des deux puissances, mais pire encore, une telle guerre pourrait ouvrir les portes de l'Allemagne à son némésis, la France. Mais pour l'instant, la chose est une autre histoire. Une histoire que nous verrons dans le prochain épisode de Par le fer et le sang. Je suis Benjamin Lacombe et je vous dis à la prochaine.